qualité de l'écriture, il fallait être attentif à trois facteurs, bien comprendre qu'elle se délivrait cette vérité à la lumière de l'accomplissement des écritures dans le Christ. C'est lui la lumière qui permet de situer les approches successives, ce qui est une fois l'interprète avisé des Écritures. On le voit dans le passage de Saint-Luc aux disciples d'Emmaüs. Il est à la fois l'objet des passages d'Ancien Testament qui leur commandent, et en même temps, il en est l'interprète. Donc, c'est à la lumière de son accomplissement et des lumières qu'il donne déjà, qu'il a déjà donné à ses apôtres, que l'on peut voir se dégager la vérité de l'écriture. Un deuxième élément important, c'est qu'il faut user d'une approche de la vérité appropriée, se situer au bon niveau. Une vérité d'ordre mathématique, une équation, vitesse égale racine carrée de 2gh, etc. Et ça vaut partout universellement, c'est établi, c'est indiscutable. Enfin, la plupart des vérités scientifiques dans le domaine objectif. Une vérité d'une relation, lorsque quelqu'un dit à une autre personne « je t'aime », on peut en avoir l'assurance intérieure, les critères de vérification, il y a des signes, bien sûr, les critères de vérification ne sont pas du même ordre mathématique pour des fiancés qui, avec confiance, s'engagent dans le mariage. Donc il y a des types de vérité, des niveaux de vérité à distinguer, et pour l'écriture sainte, il faut chausser les bonnes lunettes selon qu'il s'agit de tel ou tel genre littéraire. Ainsi, la vérité d'une légende n'est pas celle d'une histoire événementielle. Le récit du prophète Jonas dans le ventre de la baleine, il n'est pas exclu qu'il convoque la figure d'un prophète qui a pu exister au moment de Ninive, mais la manière dont c'est raconté est en même temps de l'ordre de la légende édifiante. Ce n'est pas le même niveau que l'histoire événementielle telle qu'elle est rapportée, par exemple, dans les livres des Maccabées, qui ont souffert persécution au IIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là, les références aux persécuteurs, Antiochus Épiphane, un souverain despotique, etc., sont précises en termes d'événements, ou ce qu'on appelle les livres historiques en général. L'épopée, c'est encore un autre genre. On voit que la confrontation de David et Goliath, par exemple, a certes des points d'enracinement dans l'histoire, au sens où les Philistins ont de fait à un moment donné gravement menacé l'histoire d'Israël, et que David a émergé de petit pasteur qu'il était par vocation divine progressivement comme rassembleur et leader de son peuple. Néanmoins, la mise en scène de l'histoire de David et Goliath est amplifiée de manière épique, comme dans la littérature française, la chanson de Roland, Charlemagne, la Vanguard, etc. Il y a un fondement dans l'histoire, une fois qu'il y a une mise en musique, si je puis dire, de l'ordre épique. Du reste, la Bible, dans des passages ici épiques, peut s'appuyer sur des épopées d'autres cultures. Pour la Genèse, il y a des sources dans l'épopée de Gilgamesh, un écrit sumérien, où il y a déjà un récit de déluge, où il y a déjà un récit d'une arche portée sur les eaux, salvatrice. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que l'auteur biblique fait de ce donné épique en le centrant progressivement sur la révélation du Dieu unique et des rapports avec son peuple. Donc ça, c'est le genre épique. C'est différent encore du genre didactique, les écrits de sagesse, les proverbes. Écoute, mon fils, la parole de ton père, sois attentif aux conseils de ta mère. Il y a là un ton d'éducation, de pédagogie tout à fait didactique. La poésie du cantique des cantiques, c'est encore un autre genre littéraire, le genre poétique. On a bien senti derrière la force symbolique de ce chant d'amour qui, au départ, était peut-être enraciné dans son usage lors des célébrations des mariages, de fêtes, mais la portée de ce chant d'amour a pu, dans l'histoire de l'interprétation chrétienne, surtout dans une peine allégorique, figurer aussi l'amour de Dieu pour son peuple, son Église, etc. C'est encore différent du genre d'une prescription législative. Les normes que l'on trouve concernant l'organisation des sacrifices, les normes de la loi, les passages davantage normatifs qu'on trouve dans le Pentateuque, sont encore dans un autre genre littéraire. Et là aussi, on peut voir des influences étrangères, comme par exemple certaines prescriptions, des rappels de prescriptions du code de Hammurabi, grand souverain de la première civilisation babylonienne. Donc on voit qu'il y a dans la Bible divergences littéraires qui nécessitent parfois qu'on comprenne le genre d'approche que requiert ce genre littéraire. Et en tenant compte éventuellement, comme je le disais, d'influence de la culture environnante. J'ai donné un exemple, l'exemple de Gilgamesh pour le Tapé, l'exemple du code Hammurabi pour des textes davantage législatifs. On aurait pu donner pour les écrits de sagesse et certains proverbes des exemples, des accointances dans la littérature égyptienne, où il y a aussi une série de dits de sagesse. Donc il faut tenir compte du type de vérité en question. Troisième élément dont il faut tenir compte, c'est le caractère progressif de la révélation. Dieu agit en pédagogue. C'est un terme que Paul utilise concernant le rôle qu'a pu jouer la loi avant la venue du Christ. Dieu agit en pédagogue pour son peuple. Il lui donne de grandir peu à peu dans la perception des vérités révélées. La révélation ne se fait pas en bloc. Puisque Dieu se révèle autant par ses interventions dans l'histoire que par le message qu'il donne, il faut suivre le cours de cette histoire. La révélation prend du temps et Dieu sans cesse doit s'adapter, se réadapter à son peuple. Là, le peuple défaille dans le veau d'or, Dieu doit s'y reprendre, renoncer, refaire et les tables de la loi en pardonnant à son peuple, etc. Donc une maturation théologique va s'opérer au long des textes, ils sont porteurs de vérité de foi, mais aussi les textes nous sont aussi des témoins d'ignorance encore parfois et d'angoisse corollaire. Par exemple sur la résurrection, elle est davantage l'espérance à la résurrection, à laquelle tenaient les pharisiens à l'époque de Jésus, et bien, est plus affirmée déjà dans, au retour de l'exil, parce que l'expérience du retour à la vie du peuple dans ce retour d'exil a été comme un signe du retour à la vie qui est promis dans la résurrection. Dans les visions d'Ézéchiel, les ossements desséchés qui se relèvent. Dans les livres des Maccabées, cette femme qui voit mourir, martyr, ses fils successifs, et met sa pleine espérance dans la résurrection. Je sais qu'ils me sont arrachés, mais ils me seront redonnés à la résurrection des morts. Et bien, ainsi, la foi à la résurrection, par exemple, a mis du temps à faire son chemin pour acheminer au Nouveau Testament où nous voyons dans le Christ ressuscité finalement le fondement même de notre espérance en la résurrection. Dans l'histoire sainte, la perception des exigences éthiques aussi et la révélation du péché s'affinent dans la conscience croyante et dans la manière du culte aussi, par exemple. Petit à petit, sous la parole des prophètes, que le peuple va comprendre que le culte que Dieu agrée n'est pas seulement ou avant tout le culte extérieur. Certains psaumes en sont témoins, je n'ai que faire des holocaustes, de tes sacrifices, mais le sacrifice intérieur, un esprit contrit. Il y a une intériorisation de la notion de sacrifice, un progrès dans la perception du péché, que Jésus affine encore en disant c'est tout ce qui procède du cœur de l'homme, c'est de là que vient le péché, les actes mauvais. Donc, perception grandissante des exigences éthiques de la révélation du péché. La théologie biblique, qui est de nature historique, suit une loi de progression, ainsi, mais à l'intérieur du don de la grâce unique fait par Dieu dans son alliance. Le dessein de Dieu, Dieu est fidèle à lui-même, il poursuit le même dessein, mais au fil du temps, la révélation de ce dessein se dispense progressivement pour le peuple. La théologie biblique, je vous signale un ouvrage de référence pour personne qui travaille la Bible, le VTB, Vocabulaire de théologie biblique, père Xavier Longchou, qui reste un grand classique et dans lequel il donne par ordre alphabétique des articles théologiques. Par exemple, je tombe ici sur le terme justice. Eh bien, il va en faire tout un parcours. Il donne d'abord une introduction. Il distingue la justice humaine, la justice divine. Il fait un parcours. Alors, dans l'Ancien Testament, comment parle-t-on de Dieu juge et juste? Et dans le Nouveau Testament, eh bien, ces notices, justement, nous aident à percevoir, en parcourant, sous le point de vue déterminé d'un thème donné, des écrits successifs de la Bible, peuvent donner une idée de la manière dont la théologie biblique, au fil des textes, grandit, s'enrichit, s'amplifie. Ainsi, la vérité, c'est le bas de la page, liée à l'inspiration, sollicite les sciences herméneutiques, les sciences de l'interprétation, qui la questionnent en retour. Par exemple, une question récurrente, tout à fait légitime, comment comprendre des violences dans le texte biblique, des violences qui ont l'air au moins tolérées, sinon prises en charge, voire à certains moments commandées par Dieu et justifiées parfois par des théologies très politiques, selon le récit biblique. Par exemple, au livre de l'Exode, je crois, on voit le cas d'un Israélite qui a osé ramasser du bois le jour du sabbat et Dieu ordonne qu'il soit mis à mort. C'est que le contexte dans lequel le texte est écrit, beaucoup plus tard, accordait une grande importance au respect du sabbat, comme on le voit encore dans l'Évangile, comme étant un critère identifiant très fort de la fidélité à Dieu. Alors il faut tenir compte de cela. À première vue, ça paraît scandaleux. Donc il faut distinguer entre ce que Dieu a pu demander à ce moment-là, et la manière dont ceux qui écrivent le texte insistent sur une sévérité extrême de Dieu pour faire valoir, par contraste, l'importance vitale du sabbat pour les Juifs à l'époque. Mais nous verrons qu'une étape ultérieure et un progrès dans la révélation va être franchi par Jésus qui va se montrer seigneur du sabbat et qui va relativiser ces manières très factuelles d'observer le sabbat en autorisant ses disciples à se nourrir le jour du sabbat, en guérissant le jour du sabbat, parce que si le sabbat est le jour où on honore Dieu, c'est le jour où on honore la vie que donne Dieu, et donc il a en Jésus une liberté nouvelle dans la manière de comprendre le sabbat. C'est un exemple que je donne. Les sciences herméneutiques actuelles pourraient dire aussi, par ailleurs, donc il faut quand même pouvoir dialoguer, réfléchir, articuler sa réflexion pour essayer de rendre compte au mieux de passages, parfois à première vue, surprenants, sinon scandaleux, dans la Bible pour nous, en les resituant dans leur intention et le contexte où ils sont annoncés. D'autre part, disent des herméneutes, est-ce que le texte biblique ne se conforme pas simplement aux lois communes de la composition littéraire et de la narration, voire aux données de l'anthropologie culturelle? Finalement, le texte biblique fait refléter aussi que des manières d'écriture ou même des thèmes qu'on retrouve dans d'autres pans de la littérature universelle. Et il faut pouvoir répondre en même temps que Dieu, tout en se servant du langage et de la culture humaine, révèle quand même quelque chose de nouveau, et ultimement nouveau, en son Fils. Donc, on va pouvoir appliquer aux évangiles des lois, de la lecture de récits narratifs, par exemple, aux récits évangéliques, mais tout en sachant bien quand même que ce qui s'est passé avec le Fils de Dieu parmi nous a quand même des chances d'être tout à fait unique. Il n'y a qu'un Fils de Dieu qui s'est incarné. Et donc il y a des éléments, à un certain niveau du texte, dont la manière d'herméneutique habituelle des textes littéraires n'arrivera pas à elle seule à rendre compte. Je passe au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Ceci c'était pour faire la transition avec la question de la canonicité des Écritures, qui, vous le verrez, est liée à celle de l'inspiration et de la vérité des Écritures. Donc je prends la page 8 1. Le contenu du canon des Écritures, nous l'avons vu lors de la leçon 3. Souvenez-vous, je vous ai donné un tableau au dos de la page 3, une annexe, qui vous donnait un regard, le canon, la table des matières, si je puis dire, d'une Bible catholique, avec le canon réparti en 4 sections, le Pentateuque, les livres historiques, les livres prophétiques et sapientiaux et les livres prophétiques, et en regard, une présentation de la table des matières de la TOP, qui elle s'aligne plutôt du côté protestant sur le canon hébraïque de la Bible, qui lui est divisé en 3 parties. Le Pentateuque, de toute façon, mais alors les prophètes, on a vu que c'est un sens large, au sens où les prophètes premiers recouvrent une partie des livres que nous appelons historiques, et puis la troisième catégorie, c'est les autres écrits. Donc le contenu du canon des Écritures chrétiennes, protestantes ou hébraïques, nous l'avons esquissé dans ce tableau, vous pourrez vous y reporter. La terminologie, et puis les définitions. Je vous ai fait un petit encadré pour clarifier au mieux les termes un peu compliqués et d'ailleurs résumés dans le bas de l'encadré. Et généralement dit apocryphe. Ça vient du grec apokryphos qui veut dire caché. Un écrit dont l'authenticité n'est pas bien établie. Ça, c'est la définition la plus générale. Maintenant, si on l'applique aux écrits bibliques, pour la Bible, l'expression désigne, à partir de la construction des canons, donc fixer ce qui rentre dans la liste des écrits reconnus, eh bien, l'expression apocryphe, à ce moment-là, désigne un écrit non authentiquement inspiré au regard de l'autorité religieuse, qui a à en statuer. Le sens du terme peut varier. À la différence d'Augustin, Jérôme, et les protestants, ils appellent apocryphe ce que nous, nous appelons les deutéronomiques de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, ces livres insérés en un second temps, d'où leur appellation deutéronomique dans le canon des Écritures, et que l'on trouve, non pas dans la Bible hébraïque, mais notamment dans la traduction grecque des Septuagintes. Par exemple, le livre de la Sagesse, le livre des Siracides. Et donc, les protestants désignent ces livres que nous appelons nous deutéronomiques par le terme d'apocryphe. Jérôme négligeait, il s'aligne sur le canon juif parce que il a négligé davantage ces livres deutéronomiques qui n'étaient pas proto-canoniques, c'est-à-dire entrés au début dans le canon, comme les livres juifs. Jérôme a évolué en privilégiant de plus en plus ce qu'il appelait la vérité hébraïque. La vérité hébraïque, donc le texte juif. Les deutérocanoniques, qui, avant de recevoir cette appellation, d'abord été appelés ecclésiastiques, au sens où ils étaient fréquentés par l'Église, même s'ils n'étaient pas proto-canoniques, eux, ils sont absents de la Bible hébraïque, mais on les trouve dans la Septante, et là, en regard de Jérôme, c'est Augustin qui a dit: si ces livres de la Septante, ils sont aussi inspirés et ils méritent d'être appelés canon. Ils sont devenus au titre de deutérocanoniques. Eh bien, ces livres deutérocanoniques sont, eux, dans la Septante, que vénérait Augustin, dans la Vulgate et dans nos Bibles catholiques. Nous disons apocryphe, nous, au sens de non canonique, qui ne se trouve nulle part dans la Bible, par exemple l'évangile de Thomas, qui n'a jamais été retenu, disons c'est un écrit apocryphe, un protestant, il l'appellera pseudépigraphe. De soi, le mot pseudépigraphe veut dire ce qui est écrit sous un nom d'emprunt. Bien, c'est cette étiquette-là que les protestants adorent pour désigner ce que nous appelons apocryphe. Et pseudépigraphe peut avoir aussi un sens pour un catholique, sens où on se dira que telle lettre de Paul ne peut être pas de la main de Paul lui-même, d'un disciple qui se met sous son autorité. Ce n'est pas nécessairement une vérité absolue, mais c'est défendable. Bien, à ce moment-là, on parlera d'écrit pseudépigraphe, ça ne veut pas dire faussé. Je vous rappelle la liste, simplement pour information, des deutérocanoniques. Il y a 7 dans l'Ancien Testament, Tobie, Judith, Sagesse, le Siracide qui porte aussi un autre nom ecclésiastique, les deux livres des Maccabées, Baruch qui était le secrétaire de Jérémie, et la lettre de Jérémie qui est en fait le chapitre 6 de Baruch. Et puis des petites sections de, en grec, d'Esther et de Daniel. Dans le Nouveau Testament aussi, c'est facile à retenir, il y a 7 de deutérocanoniques, c'est-à-dire qu'on a mis un peu plus de temps à intégrer dans le canon, parce qu'on hésitait davantage, je vous les mets, Hébreu, Jacques, la deuxième de Pierre, deux lettres de Jean, Jude, et l'Apocalypse, pour laquelle on a hésité un temps, vu son genre littéraire quand même assez particulier. Non, elle était accueillie dans le canon. Je résume en dessous, là où le catholique dit deutérocanonique, le protestant dit apocryphe. Là où le catholique dit apocryphe, le protestant dit pseudépigraphe. Le catholique utilise quand même parfois pseudépigraphe pour dire simplement sous un nom d'emprunt, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas authentique en doctrine. Et de même, le protestant utilisera parfois pseudépigraphe en ce sens-là. Ceci simplement pour que vous sachiez où vous y retrouver et vous soyez alerté sur l'usage différencié des mots en tradition catholique et protestante. Les termes canon et canonique, étymologiquement, kané, c'est un terme hébreu, veut dire, et a donné kamna en grec, canon, veut dire une canne, un roseau, qui est bien droit. D'où, progressivement, le sens de règle, une règle qui donne une unité de mesure, et puis une règle qui permet de tracer bien droit. D'où le sens aussi, progressivement, de normes, ce qui régule une règle de vie. On va parler de la canonisation d'un saint. Il rentre dans les critères requis pour, comme règle pour le reconnaître saint. On va parler du droit canon. C'est une règle juridique interne à la vie de l'Église. On va parler du canon de la messe. Canon numéro 1, c'est-à-dire, c'est le texte officiellement reçu que le prêtre est invité à dire dans le cadre de l'Eucharistie. Donc, vous voyez du sens tout d'abord descriptif, une règle, au sens ainsi progressivement amplifié. Ce sens, tous les exemples que je vous ai donnés, droit canon, canonisation d'un saint, ces exemples chrétiens, en effet, ce sens-là, et son usage est d'origine proprement chrétienne. De même pour le mot Bible, qui au départ, tabilia, c'est un pluriel en grec qui veut dire les livres, le livre, bien, et bien finalement, il a donné Bible, en lien avec la ville de Biblos, où son usage a commencé, mais Bible en sens de ce livre-là spécifique, qui nous rapporte la révélation. Et l'usage plus général de livres applicables à d'autres livres a été perdu. Donc, l'usage des termes canon, canonique, Bible a été, informé, utilisé, spécifié par l'usage chrétien. Les premiers usages, on les trouve chez Paul, par exemple, dans la lettre aux Galates, encore en un sens général. En Galates 6, 16, il dit ceci, « Ce qui importe, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la création nouvelle. Sur ceux qui se conduisent selon cette règle, cette manière de voir, selon cette règle, eh bien, paix et miséricorde, et c'est le terme canon, qui a donné canon, qu'il utilise là, ainsi que miséricorde sur l'Israël. » Voilà un exemple d'usage en Galates, ou dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, où Paul évoque la fierté pour le chrétien de vivre selon la mesure de la règle que Dieu nous a assignée, le canon. Donc c'est le premier usage du mot canon qu'on trouve dans le texte même du Nouveau Testament. Puis le sens, au sens de le canon des Écritures, ou bien l'adjectif canonique, va se trouver chez les pères. Dans la patristique, par exemple, au IIIe siècle, on rencontre l'adjectif canonique, au sens qu'on va voir chez Origène, ou bien le substantif, le canon des Écritures, chez Athanase. Une première définition du canon des Écritures, je la tire du dictionnaire de théologie catholique, mais souvent sous le sigle TTC, donc VTB, vocabulaire de théologie biblique. VTC, dictionnaire de théologie catholique. Qui dit ceci: le canon des Écritures est la liste ou la collection réglée, pour trouver la subvention de règles, réglée par la tradition et l'autorité de l'Église, des livres qui, ayant une origine divine et une autorité infaillible, c'est la raison de leur origine divine qui sont retenues justement, et une autorité infaillible, contiennent ou forment même la règle de la vérité inspirée par Dieu pour l'instruction des hommes. Donc il y a une régulation de ce qui entre dans la liste, et ce qui entre dans la liste devient alors normatif, régulant pour la vérité inspirée que Dieu a voulu communiquer pour l'instruction des hommes. Voilà la définition du mot canon. Le mot canonicité, elle le définit comme ceci: la canonicité est la constatation, mais pas la promulgation, la constatation que l'Église fait officiellement par une décision publique ou équivalemment par l'usage et la pratique de cette origine divine et de cette autorité infaillible. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est que, on verra, en établissant comme canonique tel ou tel livre, l'Église ne l'a pas décrété simplement du haut de son magistère d'autorité, elle a constaté et reconnu officiellement que l'usage de tel ou tel livre était légitime, était inspirant, était nourrissant dans la liturgie, dans la vie de l'Église, parce que ces écritures ne disaient que des choses cohérentes sur l'annonce de Jésus-Christ, conforme à la foi. On reviendra sur ce. Donc la canonicité est la constatation que l'Église fait officiellement. Donc le sensus fidelium, comme on dit parfois, le sens des fidèles, le sens juste de l'Église, a comme précédé la manière dont l'autorité a reconnu la légitimité de retenir tel ou tel livre plutôt que tel. La canonicité suppose l'inspiration et ne peut exister sans elle. C'est parce que on sent qu'un écrit est inspiré qu'on va dire, eh bien, à ce moment-là, s'il est inspiré par l'Esprit Saint qui ne peut nous mentir, il est porteur de vérité, et donc il peut être accueilli comme canonique. Les Écritures juives, donc ça c'est pour les termes et la définition. Les Écritures juives, comment les Juifs ont-ils constitué, même s'ils n'emploient pas le mot canonique, canon comme tel, sauf certains rabbins contemporains, mais comment ont-ils constitué, en tout cas, un ensemble délimité de leurs écritures? Le juif, d'abord, distingue, il ne parle pas de canonique avant tout, il distingue Torah écrite, ce qui, au sens le plus large, recouvre la Bible, ce que nous appelons Bible, et que le juif dira les Écritures saintes, et Torah orale, qui en sont les commentaires. Vous vous souvenez, la Mishnah, puis l'amplifier, consigné dans le Talmud, etc. Bien, le juif distingue vraiment l'Écriture sainte comme telle, et puis les commentaires. Néanmoins, les deux sont déclarés comme révélés à Moïse. Dans le judaïsme ancien, le juif actuel, c'est pas nécessairement exactement de la même manière, mais on considère que Torah écrite et Torah orale ont toutes deux valeurs de révélation divine. Un premier pas vers le processus de canonisation, entre guillemets, de certains écrits de la part des Juifs, c'est par exemple les tables de l'Alliance données par Dieu au Sinaï. Et si, comme je le rappelais, l'apostasie du veau d'or fait que le peuple est infidèle, Dieu recommence et renouvelle son alliance parce que précisément le décalogue essentiellement donne déjà un peu le cœur de la norme de ce que Dieu attend de son peuple. Et puis il y a d'autres codes législatifs davantage sur d'autres déterminations pratiques. le cœur de la loi de Dieu, et il est énoncé sur les tables de la loi dans le Décalogue. Le livre, d'ailleurs, on parle du livre de la loi, la Torah. Cela, ces textes deviennent normatifs, régulateurs. Donc, ils ont déjà une fonction d'autorité canonique, si vous voulez. Puis, on va se diriger, pour les Juifs, vers une division tripartite, une division de la Bible en trois parties, que je vous rappelais tout à l'heure. Ainsi, au livre du Siracide, qui a été écrit sans doute en hébreu, en hébreu au début du deuxième siècle avant le Christ, vers l'an 185, mais c'est le petit-fils de Ben Sira qui traduit l'œuvre de son grand-père en grec dans la Septante. Et à cette traduction qu'il fait de l'œuvre de son grand-père et qui donne pour nous le livre de Siracide ou Ecclésiastique, dans le prologue, on trouve déjà une manière de présenter les choses qui manifeste que la division de la Bible en trois parties est bien acquise. Il dit ceci, le prologue du traducteur, Ben Sirac, dit que la Bible était déjà constituée en corpus comprenant la loi, les prophètes et les autres écrivains. Une expression qu'on trouve aussi déjà dans le premier livre des Maccabées. C'est ce qu'on a vu, la division Torah, Neviim, Ketuvim, la loi des prophètes et les autres écrits. Cette division est reprise, par exemple, en Luc 24, 44. Au retour des disciples d'Emmaüs, Jésus voit les disciples rassemblés à Jérusalem, et tout comme il a déjà expliqué les Écritures à partir de la loi de Moïse et des prophètes pour leur montrer, ne fallait-il pas que le Christ souffre tout cela pour entrer dans sa gloire, il le fait maintenant, nous dit Luc, à partir de la loi, les prophètes et les psaumes, en choisissant les psaumes, de manière de pointer vers la troisième catégorie. Une autre attestation de cette division, donc on s'achemine vers un canon juif en trois parties, se trouve chez l'historien Flavius Joseph, du 1er siècle, dont je vous ai parlé. Il dit ceci. Par une conséquence naturelle, dis-je, il n'existe pas chez nous, les Juifs, donc il est en train de faire l'histoire du peuple juif pour la valoriser aux yeux des Romains. Par une conséquence naturelle, dis-je, il n'existe pas chez nous une infinité de livres, biblia, en désaccord et en contradiction, mais 22 seulement, qui contiennent les annales de tous les temps et obtiennent une juste créance. Flavius Joseph est un historien, donc pour lui les livres bibliques sont avant tout des témoins de l'histoire. C'est pourquoi il utilise le terme des annales de tous les temps. Ce sont d'abord les livres de Moïse, au nombre de 5, comprenons c'est la Torah ou Pentateuque, qui comprennent les lois et traditions depuis la création des hommes jusqu'à sa propre mort à Moïse. De fait, le Deutéronome se termine sur la mort de Moïse. C'est une période de 3000 ans à peu près. Ça c'est la première partie, les 5 livres de Moïse. Depuis la mort de Moïse jusqu'à Artaxerces, Artaxerces le Perse, successeur de Cyrus, intervient les prophètes qui vinrent après Moïse, ont raconté l'histoire de leur temps en 13 livres. Les prophètes, il le prend au sens large, où on a vu, il y a des prophètes premiers, de l'île d'histoire et des prophètes derrière. Et les 12 petits prophètes sont rassemblés en un seul. Les 4 derniers livres, donc il a parlé des 5 livres du Pentateuque, de 13 livres prophétiques au sens très large, et les 4 derniers contiennent des hymnes à Dieu, on comprend qu'il y a là-dedans un petit psaume par exemple, des hymnes à Dieu, et des préceptes moraux pour les hommes, par exemple le livre des Proverbes. Depuis Artaxerces jusqu'à nos jours, tous les événements ont été racontés, mais on n'accorde pas à ces écrits la même créance qu'aux précédents, parce que les prophètes ne se sont plus exactement succédés. Là, il y a une allusion au fait que les preuves, le livre des Maccabées, par exemple, seront deutérocanoniques. Flavius Joseph, qui est un bon juif, dit qu'on ne rapporte pas la même créance, parce que nous sommes après la période où les grands prophètes ont parlé. voit-il, ce texte de Flavius Josèphe offre aussi un bon reflet de cette perception du canon de la Bible juive en trois parties. Le corpus des livres, on s'approche, donc on a des éléments déjà de l'organisation des écrits canoniques, entre guillemets, pour les juifs. Maintenant, le corpus des livres qui souille les mains, comme on dit, autrement dit, après avoir touché les livres, les Écritures saintes, il faut se laver les mains. C'est une expression curieuse, mais qui nous dit qu'on passe du domaine religieux, qu'on repasse au domaine profane. Il y a un changement marqué. De même, lorsqu'on dit, après la communion, que le prêtre purifie les vases sacrés, et de soir, vous direz, il n'y a rien de plus saint, puisqu'ils ont contenu le corps et le sang du Christ. Mais c'est un rite qui dit que voilà, l'action sacrée s'est déroulée et désormais le calice qui rentre à la sacristie n'a plus exactement le même statut que le calice qui contenait le sang du Christ. J'explique dans mes mots, mais pour que vous compreniez l'expression un peu apparemment un peu curieuse, les livres qui souillent les mains pour désigner les livres saints. Eh bien, le corpus de ces livres est entériné à la fin du 1er siècle. Entériné parce que il était déjà pratiquement dans les faits en place, mais il est entériné à la fin du 1er siècle. Vous vous souvenez qu'après la chute de Jérusalem, c'est le moment où, dans l'assemblée de Jarmnia ou Jarmné, le judaïsme se ressaisit. Et à ce moment-là, donc, fixe ses écritures, le texte consommatique, tous les livres de la Bible hébraïque, et puis encore peut compléter au début du deuxième avec Rabbi Akiba. Il y a l'un ou l'autre livre sur lesquels on hésitait encore, mais à ce moment-là, vers l'an 135, les livres de la Bible hébraïque tels que nous la connaissons aujourd'hui sont fixés. C'est ce qu'on appelle le canon palestinien. À côté de ça, même pour les juifs, il y avait un canon grec. Souvenez-vous que la Septante, la grande traduction de la Bible en grec, a d'abord été faite pour des juifs hellénisés à Alexandrie. Donc, les juifs hellénisés ont connu un canon plus large, le canon de la Septante. Et puis après, c'est par réaction en partie contre les chrétiens qui avaient fait de la Septante leur Bible que les juifs n'ont plus fréquenté ces livres. Mais tout un temps, le canon grec de la Septante pour les juifs hellénisés était reçu surtout à Alexandrie et en diaspora. Et on voit que la Septante, son contenu est plus large que celui de la Bible hébraïque et son organisation au 4e, 5e siècle, elle est encore un peu variable, c'est-à-dire simplement les livres ne sont pas nécessairement à la même place, selon les grands manuscrits qu'on appelle les grands codex ou les répertoriés. Les grands codex des 4e, 5e siècle, c'est de nos savants, Sinaiticus, Vaticanus, etc., eh bien, leur contenu est identique, mais la manière dont les choses sont organisées peut varier de l'un à l'autre. Cette Bible grecque de la Septante, qui donc est devenue la base de notre Bible chrétienne, le grec a connu encore des révisions de la part de Juifs, c'est ce qu'on appelle la révision d'Aquila et de Symmaque, et aussi de la part d'un chrétien, Théodosien. Ce qui veut dire que à l'époque du... Là, nous sommes au 1er, 2e siècle maximum après le Christ, avec Théodosien, ces diverses versions de la Bible grecque, la Septante, les révisions d'Aquila, Symmaque, Théodosien, ont pu servir à Origène, qui est mort au milieu du 3e siècle, pour faire cette œuvre dont je vous ai parlé, les Exarches. Un ouvrage en 6 colonnes où il avait le texte hébraïque, sa transcription en lettres grecques, et puis la Septante, Aquila, Symmaque, Théodosien. On n'a plus cette œuvre monumentale, mais elle recueillait toutes ces versions qui ont pu donc connaître, c'est pour ça que j'en parle dans le cadre des Écritures juives, être connues, la Septante certainement, Aquila, Symmaque, qui étaient des œuvres juives, par des juifs de langue grecque. Ceci pour les Écritures juives. Donc les juifs sont d'accord sur le contenu de leur canon tel que nous le connaissons aujourd'hui à la fin du 1er, début du 2e siècle. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament chrétien. Le mot d'Ancien Testament, d'abord, testament, En hébreu, il y a un mot pour dire l'alliance, c'est berit. Il est traduit en grec par diatheke, dont l'équivalent latin c'est disposition. Disposition, ça connote aussi une disposition testamentaire. Retenez que ce qu'on traduit par alliance, tantôt par alliance, tantôt par testament, c'est le même mot dans le grec. Alors si on dit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, on comprend, une compréhension plus théologique de la période de l'ancienne alliance, de la période de la nouvelle alliance. Si on dit ancien testament et nouveau testament, ça peut appliquer aussi à la réalité scripturaire, aux écrits respectifs. Mais au départ, le mot diatheke peut signifier alliance ou bien testament. On le trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, par exemple, de Corinthiens 3, 14. Jusqu'à ce jour, dit Paul, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il utilise l'expression, ce qui veut dire que l'idée d'un Ancien Testament comme corpus juif est déjà bien présente à son esprit. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le voile demeure sur les yeux des lecteurs. Il n'est pas levé, car c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile qui empêche de comprendre ce que visaient les textes de l'Ancien Testament, c'est dans le Christ qu'il est levé, qui fait venir à la pleine clarté. L'intérêt, c'est que ce texte très précoce utilise déjà l'expression d'Ancien Testament, de la part de l'auteur. On va trouver, pour les chrétiens, des listes des écrits de l'Ancien Testament concernant lesquels les chrétiens vont privilégier tantôt la liste courte, c'est-à-dire celle qui correspond à la liste hébraïque, tantôt la liste plus longue. Par exemple, la liste courte se trouve chez Méliton, l'évêque de Sardes, ou bien chez Jérôme, qui au début était favorable à la liste longue de la Septante, et puis en s'approchant de la Veritas Hebraica, comme il disait, il a réduit pour ne privilégier que la liste courte. Par contre, un bon témoin de la liste longue, donc celle qui est en consonance avec la Septante, qui accueille les écrits de la Septante, un certain Rufin, évoluant parce qu'il a fait le trajet inverse, puis il est parti du court vers le plus long, à la différence de Jérôme, mais surtout Augustin, comme je l'ai dit, qui est le partisan de la Septante et de la liste longue. Toujours est-il que c'est cette liste longue que des conciles locaux à la fin du IVe siècle, tantôt à Laodicée, en Asie mineure, tantôt à Rome, tantôt à Hippone, en Afrique du Nord, vont entériner. Donc on peut dire qu'officieusement, les chrétiens sont d'accord sur la liste des livres de l'Ancien Testament, et c'est en l'occurrence plutôt la liste longue, à la fin du IVe siècle. Et si Jérôme n'avait lui-même traduit dans la Vulgate que la liste courte, ses disciples, après lui, ont traduit aussi les autres livres, ce qui a donné la Vulgate au sens élargi, qui est la Vulgate latine, qui était normative pour toute l'Église pendant 15 siècles. Pour le Nouveau Testament, d'abord l'expression Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, elle vient de Jérémie 31-31. Bien ce verset, c'est facile. C'est le seul endroit de l'Ancien Testament où on parle de Nouveau Testament. Jérémie dit « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. » Et la nouveauté de cette alliance, c'est qu'elle sera intériorisée, et surtout, à la fin du passage, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés », ce qui s'accomplit radicalement dans le sacrifice du Christ. Mais donc l'expression vient de Jérémie, la lettre aux Hébreux l'a très bien compris, qui alors fait jouer ce rapport entre ancienne alliance et nouvelle alliance, de même qu'un passage de la deuxième lettre aux Corinthiens. C'est Irénée qui unifie la théologie des alliances. Vous vous souvenez que l'hérétique Marcion opposait le Dieu jaloux de l'Ancien Testament au Dieu miséricordieux du Nouveau Testament et ne retenait, justement, il liquidait tout l'Ancien Testament et de nouveau il retenait que Saint-Luc et des passages expurgés de Paul. C'est pour réagir à Marcion que Irénée, à la fin du IIe siècle, défend, lui, l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il dit ceci. Vous avez le texte sous les yeux. La loi de Moïse, aussi bien que la grâce du Nouveau Testament, allusion au prologue de Jean. La loi nous est venue par Moïse, la grâce et la vérité nous est venue par Jésus. Après, la loi de Moïse, aussi bien que la grâce du Nouveau Testament, toutes deux adaptées à leurs époques respectives, ont été accordées pour le profit du genre humain par un seul et même Dieu. Contre Marcion, il n'y a pas un Dieu jaloux dans ce testament, un Dieu, c'est le seul et même Dieu. Ces deux testaments, un seul et même maître de maison les a extraits de son trésor. Ça, c'est la fin du discours en parabole de Matthieu 13. Le scribe devenu disciple du royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor de l'Ancien et du Neuf. Du Neuf et de l'Ancien. L'Ancien Testament, lui. Et ce maître de maison, c'est le Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui s'est, il insiste sur le lien entre l'Ancien et Nouveau Testament, c'est lui, Jésus, qui s'est entretenu avec Abraham et avec Moïse. Jean dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et sur à la transfiguration, on voit Jésus s'entretenir avec Moïse. Et c'est également lui qui nous a rendu la liberté dans la nouveauté, c'est-à-dire amplifier la grâce venant de lui. L'extrait de d'Irénée qui insiste sur l'unité des deux testaments. La formation progressive du canon du Nouveau Testament. Tout comme pour l'Ancien Testament, il a fallu attendre la fin du 4e siècle, de même pour le Nouveau Testament, pour qu'on soit vraiment d'accord, au moins officieusement, sur les livres présents dans le Nouveau Testament tels que nous les connaissons aujourd'hui. La crise de Marcion appelait le principe d'un canon et son contenu. Puisque si d'autres comme Marcion ont commencé à déplorer ce qu'ils voulaient, ben, on n'avait plus de normes. On va alors désormais retenir progressivement quatre évangiles. Déjà vers l'an 150, on est bien d'accord sur le fait qu'il y a quatre évangiles et pas un cinquième, mais pas trois. Tout cela et rien que cela. Et l'usage liturgique des mémoires des apôtres, comme il appelle à l'époque les évangiles. Il y a aussi le Diatessaron Syria de Tatien, c'est-à-dire une tentative pour présenter les quatre évangiles en un. Ça postule au moins que, considéré comme base de travail, quatre évangiles, à nouveau. Maintenant, le fait d'avoir vouloir fonder quatre récits en un, même si ça contribue à la connaissance des évangiles, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Voit-il, on va retenir progressivement quatre évangiles, et les lettres aussi, qui ont circulé très tôt, avec des adresses universalisées, c'est-à-dire au début de Romains, Corinthiens, on voit que Paul écrit aux Corinthiens et aux autres saints qui sont dans la Caïmie, la région du Sud. Autrement dit, que ces lettres destinées à une communauté au départ ont commencé à être des lettres circulaires, qui circulaient dans les communautés et qui devenaient le bien universel de l'Église. De même, la deuxième lettre de Pierre évoque déjà les lettres de Paul comme formant un ensemble. Comme témoin d'un consensus progressif, on a le canon Muratori, dont j'ai déjà parlé, cette liste des livres liturgiques en usage à Rome vers la fin du IIe siècle, et qui contient déjà pratiquement la liste des écrits tels qu'aujourd'hui, on hésite encore seulement sur l'un ou l'autre. Et puis les distinctions d'Origène, qui dit il y a déjà un certain nombre d'écrits reconnus, pas de doute, moins de canonique, hérétiques, pas de doute, ils seront les apocryphes, et puis il y a ceux du milieu pour lesquels on hésite encore, on discute encore. Toujours est-il qu'un accord de fait, tout comme c'était le cas pour les livres de l'Ancien Testament, est acquis à la fin du IVe siècle, en Orient, par exemple chez Athanase d'Alexandrie, puis en Occident. Et la confirmation, alors, de ce qui est déjà reconnu officiellement à la fin du IVe siècle, intervient notamment au Concile de Florence, mais surtout, la promulgation la plus officielle, c'est au Concile de Trente, le XVIe siècle, dans le contexte de la réaction par rapport aux protestants qui voulaient s'en tenir au seul canon plus près. Et c'est repris par Vatican. Un auteur commente en ce sens ce processus. La tradition est l'organe du Saint-Esprit. Le canon biblique est envisagé comme manifestation de cette tradition. C'est un point dans le débat qui s'instaure au Concile, comprenons le Concile de Trente, hein, avec l'interprétation protestante de la sola scriptura. Non seulement l'élaboration de l'écriture est faite sous la mouvance de l'Esprit Saint, mais la possibilité de la clôture d'un canon biblique ressort de cette assistance promise par le Christ à son Église. Dit plus simplement, l'Esprit Saint intervient pour inspirer les livres et pour faire reconnaître par l'Église quels livres sont inspirés. Je tourne la page. La clôture du canon. Donc, il ne suffit pas de dire tel livre peut rentrer dans le canon, tel autre aussi. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut fixer une clôture, une limite. Dire, il y aura tout cela et rien que cela. Athanase dit, ce sont là les sources, ces écrits canoniques, ce sont là les sources du salut. Au point que l'homme assoiffé peut puiser à satiété les paroles qui s'y trouvent. Par eux seuls, la doctrine de la piété peut être annoncée. Vous voyez qu'il insiste sur le caractère existentiel, en parlant de salut, une doctrine de piété. Puis il termine en disant que personne ne leur ajoute rien de plus et ne leur enlève rien de moins, quoi que ce soit. J'irai lire les avant-derniers versets pratiquement de l'Apocalypse, chapitre 22. Si quelqu'un retranche les paroles prophétiques de ce livre, si quelqu'un y ajoute, amen. Clôturer le canon, c'est donc d'abord un acte d'inclusion, c'est-à-dire on inclut tout ce qu'on reconnaît inspiré, mais aussi d'exclusion. On élimine ce qui n'y est pas. Les apocryphes en inclusion, que, je vous le rappelle, les protestants dans le pseudépigraphe. Mais c'est aussi, cette délimitation du canon, curieusement, c'est aussi un acte d'ouverture vers ce que ce contenu définit. Appel d'interprétation, non pas répétitive, mais sans cesse renouvelée dans la fidélité. Je veux dire ceci, la nouveauté ne va pas advenir du fait qu'on accueillerait des nouveaux livres, après avoir clôturé le canon, mais du fait que les livres qui ont été accueillis, on va mesurer qu'ils sont inépuisables, et que l'interprétation va pouvoir sans cesse en être approfondie et renouvelée. C'est là la nouveauté. Saint Jean le dit lui-même à la fin de son évangile, ce que Jésus a fait, on pourra en écrire des livres qui rempliraient le monde, etc. Et l'Esprit, ces signes consignés dans ce livre suffisent comme témoignage pour que vous croyiez et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Le principe d'une carte de canonisation ultime est Jésus-Christ. Bien sûr, révélation décisive de Dieu qui était préparée dans l'Ancien Testament et accomplie, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, dit Jésus, dans le mystère de sa passion-résurrection. On va reconnaître, alors on va parler de corpus, de corps scripturaire lié au Verbe de Dieu, corporellement incarné. On va faire jouer, on parle du corps incarné du Christ, on parle de son corps ecclésial, on parle de son corps eucharistique, et en un sens encore un peu différent, on parle quand même du corps scripturaire, dans le sens qui est centré aussi sur celui qui est le principe de reconnaissance canonique ultime. Sa personne de Jésus, sa mission révélatrice et salutaire donne la mesure d'un canon chrétien des Écritures qui soit à la fois le plus totalisant, le canon chrétien intégrant tous les livres, pas seulement hébraïque, mais aussi ceux de la Septante et plus large, et en même temps ouvert, un peu au sens, je viens de le dire, sur son interprétation. Et notamment ouvert parce que la Septante, c'est en grec. Et le grec, c'est la langue, quand même, de l'ouverture aux nations, à l'époque où le christianisme prend naissance. Tout le monde ne parlait pas juif, mais beaucoup, dans le bassin méditerranéen, parlaient et comprenaient le grec. Dans le souci de fidélité à l'événement fondateur et aux apôtres, parce qu'ils sont en train de disparaître, donc on se dit, une fois que cette génération-là ne sera plus là, qu'est-ce qu'on va garder d'elle? Il s'agit de le garder. Eh bien, trois critères déterminent la reconnaissance canonique pour les écrits du Nouveau Testament. Autrement dit, on répond à la question, qu'est-ce qui a permis à l'Église de dire ceci est canonique, cela n'est pas? Trois critères. D'abord, le critère apostolique, du témoignage originel, parfois dit de l'apostolicité. Consiste en ceci, on retient des témoignages de la première génération des témoins. Les évangélistes, Paul n'a pas été témoin de Jésus du terrestre au même titre que les douze, mais il a connu Pierre, Jean, il a connu cette génération. Donc tout ce qui vient de ceux qui ont fréquenté cette génération, ou bien Luc lui-même n'est pas un apôtre parmi les douze, mais il dit dans son prologue de son évangile, après m'être informé soigneusement auprès de ceux qui ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole. Donc il y a ce lien, d'une manière ou d'une autre, aux apôtres dans la génération apostolique. Agissant dans la personne du Christ, comme on a dit, les apôtres lisent les Écritures à la lumière du Jésus qu'ils ont côtoyé, mais aussi de l'Esprit qu'ils ont reçu à la Pentecôte que nous avons célébré de lui. Ce critère temporel, donc de dire on retient ce qui est rattaché à la génération apostolique, à ceux qui ont connu, eh bien, dans une césure normative, comme on dit parfois, la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Toute la révélation a été donnée, maintenant la réception de cette révélation, l'intelligence chrétienne, ça, elle peut continuer à grandir, elle doit continuer à grandir là. Deuxième critère, donc premier critère, celui de la génération apostolique. Deuxième critère, un critère ecclésiologique. Comment l'Église a-t-elle reçu tel ou tel livre? C'est aussi un critère. Le critère dit de la réception. On retient des livres reçus non seulement dans la communauté pour laquelle ils ont été écrits, mettons en Corinthe, mais qui se sont aussi progressivement imposés dans la pratique, notamment liturgique, des autres églises. On a commencé à lire la lettre aux Corinthiens, au passage des Éphésiens, ailleurs. Donc il y a comme un critère de diffusion spatiale, qu'on appelle un critère ecclésial, d'usage et de reconnaissance ecclésiale. Enfin, le critère qui n'est pas le moindre, qui est finalement principal aussi, le critère christologique, dit de l'orthodoxie parfois, il canonise des documents qui présentent le Christ conformément au kérigme apostolique. On retient des livres qui témoignent de règles de foi vraies, un critère de justesse christologique. Souvenez-vous par exemple, j'ai évoqué l'évangile apocryphe de Thomas, il ne présente que les paroles du Christ, mais encore à sa manière, et il ne dit rien de l'histoire de Jésus, de sa vie, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection. Autrement dit, c'est un Jésus incarné, désincarné. Pardon. On s'intéresse seulement au message, mais ce que Jésus était et a fait pour nous en lui-même, comme souvent, on ne s'y intéresse pas. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'adéquation christologique, de ce point de vue, dans cet évangile. Voilà les critères qui permettent de déterminer ce qui est canonique. Si vous avez encore patience quelques minutes, je vous dis un petit mot du canon chrétien et en ce qu'il a une portée théologique. Par exemple, le phénomène de l'inspiration, ça avait une portée théologique au sens où ça nous montrait que si c'est Dieu qui inspire un auteur humain sans lui enlever ses moyens littéraires habituels, autrement dit, s'il y a collaboration entre Dieu et l'homme, ça veut dire quand même que ce phénomène de l'inspiration, c'est une expression de l'alliance entre Dieu et l'homme, en l'occurrence au niveau de Dieu. De la même manière, le phénomène du canon chrétien, dont je vous ai donné des repères et objectifs, a une portée de théologie. Les écritures chrétiennes sont établies pour l'Ancien Testament, on l'a vu, à partir de la Septante, dans le cadre d'une universalisation qui était déjà amorcée par la diaspora juive, donc les juifs dispersés dans le bassin méditerranéen, et qui, là, à Antioche, de Syrie ou à Alexandrie, connaissaient aussi le grec. Mais les écritures chrétiennes donc, se font dans le cadre d'une universalisation qui avait commencé chez les juifs, mais elles reconnaissent Jésus-Messie précisément comme sauveur universel. Et donc elles consacrent la nouveauté chrétienne par rapport au judaïsme. Ce n'est pas simplement le Messie de son peuple, c'est comme disent les Samaritains en Jean 6, et nous croyons vraiment que c'est lui le sauveur du monde, pas seulement de son peuple. Par fidélité au corps vivant du ressuscité, l'Église sente sa liturgie et sa réflexion sur le corps de l'Écriture, où elle peut, d'une certaine manière, toucher, pour reprendre les mots de saint Jean, le Verbe de vie, qui s'est livré, précisément, pas simplement pour son peuple, mais comme dit l'Apocalypse, pour des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Dans le canon chrétien ainsi ouvert par le biais du grec de la Septante aux nations, il y a quelque chose d'une intention qu'on peut réfléchir théologiquement à la part de Dieu. Un même corpus scripturaire canonique est référé au même Christ et il est traduit en différentes langues. On ne va pas dans telle langue choisir tel livre, dans telle autre langue choisir tel autre livre. Non, c'est le même texte qu'on traduit, mais dans différentes langues. André Paul s'exprime ainsi. Le canon des Écritures est pour sa part le garant des conditions mêmes de diaspora nécessaires au christianisme comme présence historique, sociale et culturelle et à l'Église comme organisation et manifestation théologale. Diaspora, le mot désigne de soi un horizon indéfini de terres multiformes et de langues différentes. L'expression de l'Apocalypse que je pointe. Dans ces conditions, la Bible ne répondra à sa vocation que si elle est traduite et interprétée. Pour rejoindre les nations, elle doit être traduite dans les langues que connaissent les nations. La fonction canonique des Écritures est essentielle à la Bible et lui garantit sa capacité vitale d'être toujours disposée à une nouvelle lecture. Et je précise entre crochets, lecture du texte défini et non pas lecture d'un corpus qui aurait des frontières poreuses, non, il est fixé une fois pour toutes, ce qui nuirait à la communion, d'autant plus nécessaire qu'on est dispersé. Plus l'Église se répand, plus il est nécessaire que, aussi bien là-bas qu'ici, on se réfère au même corpus scripturaire, évidemment. Si chacun avait son corpus, ça serait un facteur de dispersion. De même que l'inspiration était intimement associée à l'incarnation du Fils de Dieu dans l'histoire d'Israël, puisqu'à l'avènement du Messie, ainsi la canonicité est associée à la rédemption effectuée par Jésus au Calvaire. Pourquoi ? La rédemption, elle est pour tous les hommes. Et le choix chrétien d'un canon élargi est associé à ça. Seul le texte biblique en son état final est normatif pour tous, et non pas ses sources ou les courants théologiques repérables dans le texte. Autrement dit, ce qui est authentifié canoniquement, c'est le texte que nous avons en son état final. Ça ne dispense pas de faire les recherches historico-critiques des états de la genèse du texte qui ont mené à cela, mais c'est le résultat final qui est reçu comme canonique et inspiré. Pourquoi ? Parce que une partie du texte doit s'interpréter à la lumière du tout. Et c'est le tout qui est reconnu canonique. L'ordre canonique des livres bibliques peut répondre à une visée théologique. Par exemple, l'ordre des livres du Pentateuque, Genèse, Exode, Deutéronome, suit une certaine progression dans l'histoire, une progression théologique. Il y a deux numéros dans la Nouvelle Revue Théologique, il y avait un article remarquable du père Jean-Pierre Sonnet qui fait un parcours dans l'année de la Miséricorde, montrant comment dans le Pentateuque, la notion de la justice de Dieu s'allie à sa miséricorde. Et il nous fait avancer dans les livres du Pentateuque, on voit qu'il y a une logique. Mais l'ordre canonique, à d'autres moments, il peut résulter d'un placement plus contingent, c'est-à-dire qu'il n'est pas absolu. Les lettres de Paul, elles ont été classées par l'ordre de grandeur, on commence par les plus longues, on commence par les lettres aux communautés, avant de terminer par les lettres aux personnes, Timothée et Tite. Donc c'est un critère beaucoup plus prosaïque, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Par ailleurs, une lecture de la Bible qui suit l'ordonnance juive des livres va différer d'une lecture selon le canon chrétien. Et en l'occurrence, c'est, je trouve, révélateur, si vous prenez la Bible de Jérusalem, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est le livre de Malachie. Et la fin du chapitre 3, le troisième chapitre de Malachie, c'est « Voici que je vais envoyer mon messager, Élie, et que le Nouveau Testament a aidé à comprendre comme étant Jean-Baptiste. » Donc, le dernier mot dans l'ordre canonique de nos Bibles catholiques de l'Ancien Testament, nous ouvre directement au début du Nouveau Testament. Enfin, on revalorise aujourd'hui l'histoire de la formation du canon comme clé herméneutique. Je me contente de deux citations en ce sens. La règle peut risquer de tuer toute créativité historique tant qu'elle est appliquée dans un esprit de juridisme. Mais elle peut fonctionner aussi comme archive qui garde la mémoire des multiples transformations de la tradition chrétienne. C'est-à-dire, comment les Écritures ont donné lieu, en avançant dans le temps, à des interprétations renouvelées et en suivant comment il a fallu 4 siècles pour, à la tradition, pour déterminer finalement, oui, ces livres-là et rien que ceux-là, on voit le déroulé d'une pensée théologique qui se dit, ben oui, quand même, ce mais-là, à première vue surprenant, il faut quand même l'intégrer parce que, etc. C'est ça qui arrive. Enfin, deuxième citation, l'acte de réception d'un corpus scripturaire par le corps de l'Église, avec son double aspect d'obéissance et d'autorité, j'obéis à l'autorité ecclésiale qui me dit ceci est canonique ou pas, eh bien cet acte de réception a précédé la décision formelle du magistère. C'est ce qu'on disait au début. Le magistère n'a fait que prendre acte de ce que l'Église avait commencé dans sa pratique à sentir et qui a précédé sa décision formelle. Le magistère reconnaît après coup la normativité de l'acte de réception. La manière dont les chrétiens ont reçu était une indication pour le magistère de dire, ben oui, cela est canonique et normatif. Le canon des Écritures, qui est un fait de tradition vivante, est ainsi au cœur de la relation entre l'Écriture et l'Église, parce que ce sont les fidèles nourris de l'Écriture dans la liturgie qui ont aidé l'Église à reconnaître que tel livre est à reconnaître comme authentique. Voilà, merci de votre patience. Donc la fois prochaine, le mois prochain, on partira de texte. En échange d'être un peu plus complet.